Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et oui, en ce beau mercredi 2 septembre, en compagnie d'Isabelle Falardeau, Serge Bradet et en régie Mathieu Tessier. Serge, les métiers disparus ce matin, vous avez trouvé ça dans une revue qui date quand même pas de, de la semaine passée, là, 2024.
2024, c'est en réserve.
Mais ça reste actuel.
Oui, oui, c'est en réserve depuis 2024. Oui, c'est ça, c'est, ça s'appelle « Nos métiers disparus, nostalgie 2024 ». Alors, on parle en tout premier, le télégraphiste. Vous savez que les signaux visuels ont toujours existé depuis très longtemps. Le fameux drapeau blanc. Par contre, ben, il faut que ça va pour une certaine distance, là, parce que si c'est situé à 10 000, vous ne verrez pas le drapeau blanc. Drapeau rouge, tout ça. Alors, mais après ça, l'usage des drapeaux comme langage télégraphique, ben, c'est très ancien. Mais encore de nos jours, on utilise cette méthode de communication par étendard dans l'armée. Ainsi que dans la marine et chez les scouts. D'autres techniques, telles ces célèbres feux de signalement utilisés par les indigènes d'Amérique, on voit ça dans les westerns, ou encore le tam-tam employé par les indigènes d'Amérique, ou les tam-tams aussi employés par les tribus africaines. Cela peut sembler quelque peu tiré par les cheveux, mais ces modes de communication représentent les ancêtres de notre Internet actuel, quand on y pense. Et saviez-vous que le métier de télégraphiste est apparu au 18e siècle, vers la fin du 18e siècle, et le tout dernier télégramme envoyé du Canada en France ne date que de 2018.
Non, c'est quand même assez récent,
ouais. Même pas 10 ans. Alors, il y a une dame qui nous dit, dans les années 1940, mon père travaillait comme télégraphiste pour la Canadian Pacific Railways Company's Telegraph à Winnipeg. Et je me souviens, il avait un petit carnet appelé l'alphabet télégraphique Morse, dans lequel chaque signal était associé à une lettre. Alors, cette dame, Madame Rose Aimée Martin, était âgée à l'époque d'une dizaine d'années. Et elle s'initia en cachette à ce langage particulier, rêvant de pouvoir un jour suivre les traces de son père.
Avez-vous déjà reçu un télégramme, vous, Serge?
Oui, non.
Moi, oui.
Ah oui?
Ah oui, quand j'étais en Abitibi. Mais vous dites que ça s'est terminé en 2018, et puis je faisais partie d'une troupe de théâtre, et pour la première, ma famille m'avait envoyé un télégramme pour me dire le mot de Cambronne.
Ah, c'est gentil.
Ah oui, sympathique. Mm-hmm.
Mais malheureusement, ben, ce n'était pas la place des femmes hein, d'envoyer d'être télégraphiste. Pas encore.
Ah non.
Elle dit que son père avait travaillé en tant qu'opérateur de télégraphe au cours de la Grande Guerre, puis comme contrôleur ferroviaire à Winnipeg. Un bon soir, comme il en avait l'habitude, il s'était rendu à la taverne du coin avant de se faire escorter à la maison les pieds plus ronds que jamais.
Les pieds plus ronds.
Oui, ça veut dire qu'il avait pris un petit verre, le monsieur.
OK, il était cocktail.
Ouais. En pleine nuit, on vint frapper à la porte à la suite d'un important accident survenu sur les rails de la compagnie. Mais le standardiste, ivre-mort, ne parvenait même pas à se tenir sur ses deux pieds. À l'heure où un vent de panique soufflait sur la communauté, la jeune Rose Aimée, armée de courage et d'un brin d'entêtement, affirma qu'elle savait comment envoyer un télégramme d'urgence. 10 ans. Je m'imagine le tableau et je peux pas m'empêcher de sourire. Une petite fille aux bouclettes blondes, dans sa robe de chambre et ses pantoufles, armée d'un casque d'écoute 3 fois trop grand, concentrée à ponctuer ses signaux d'une vitalité qui la dépassait totalement. Jamais j'oublierai cette nuit-là. Madame Martin travailla plusieurs années comme télégraphiste, finalement, pour une compagnie d'exportation, avant de se tourner vers un métier d'avenir, standardiste.
Rose Aimée était déterminée.
Oui, 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 oui. Et vous avez le réveilleur.
C'est quoi ça?
Ah ben, je vais vous dire ça.
Un cadran humain?
Si aujourd'hui, ben oui, oui, oui. Si aujourd'hui nos alarmes sont réglées en moins de 2 par nos appareils intelligents, il fut un temps, avant même l'invention du réveil matin à remonter, où le métier de réveilleur en était un d'importance. Popularisé dans les faubourgs animés du 19e siècle, cet emploi, comme son nom l'indique, consistait à faire sortir du lit ces marchands, porteurs et acheteurs qui, pour quelques minces centimes, pouvaient dormir paisiblement sur leurs deux oreilles. Cependant, la vie d'un réveilleur n'était point de tout repos. En fait, cette occupation était l'une des plus pénibles et des moins bien rémunérées parmi les services offerts au sein des agglomérations. Ces ouvriers de l'ombre marchaient toute la nuit, d'un quartier à l'autre, hélant de fenêtre en fenêtre.
Réveillez-vous!
Oui, cela n'était pas rare que certains d'entre eux fussent munis d'un lance-pierre ou encore d'un long bâton afin de frapper contre les carreaux des chambres à coucher, attendant parfois une réaction au-delà d'un quart d'heure. Dans l'éventualité où, après un interminable laps de temps, aucune réponse ne parvenait de la part de l'endormi, le réveilleur se voyait dans l'obligation de monter quelques 3 ou 4 étages afin de remplir ses fonctions. Aller réveiller la personne. Et j'imagine qu'il ne devait pas toujours être accueilli avec un large sourire. Mais tel était son devoir et il le faisait. Connu sous plusieurs appellations, telles les « knocker-up » en Angleterre et en Irlande, ou encore les « veilleurs » au Québec, ces derniers connurent une hausse de popularité lors de la Révolution industrielle, et ce jusqu'à l'avènement des réveils matins mécaniques. Dès lors, plusieurs de ces réveilleurs se sont recyclés en ce qu'on appelait des « veilleurs de nuit », profession qui se résumait à surveiller pour le compte...
Les gardiens de nuit, là.
Oui, gardiens de nuit, oui. Alors, pour le compte d'un hôtel, par exemple, il devait surveiller un stationnement ou encore un entrepôt. Je pense que ça existe encore aujourd'hui, ça.
Je pense.
Il y a des avec les caméras, c'est ça. Les caméras de surveillance qu'il y a, là.
Il y a une fabuleuse photo qui existe. Elle s'appelait Mary Smith. Si vous faites Mary Smith, Knocker Hopper, elle est magnifique avec ça. Elle avait un tire-poids.
Ah oui! C'est une réveilleuse!
Ouais.
Wow! Merci. Wow.
Là, il y aurait le vendeur de revues et de journaux. Hey, ça, là, c'est disparu. Hein.
Ouais.
Ben, oui. Mm-hmm.
Celui qui est dans la rue ou ouais, celle qui est dans la rue, mais c'était plus...
Ouais. Ou le petit kiosque là, de journaux où on allait au coin de la rue acheter
c'est,
tous les...
C'est complètement disparu, ça.
Ben, il reste encore... On trouve encore dans les dépanneurs, là, tout ça. Mais
les maisons de la presse.
Oui, mais sur la rue, là, en tant que tel, le petit kiosque traditionnel, là.
Au Québec,
on en voit dans les séries télé, par exemple.
Oui, on en voit.
Oui, oui, oui. Là, oui, mais les séries télé qui se passent actuellement?
Ben, je veux dire,
qui
se passe aux États-Unis, peut-être pas ici, par
contre. Oui,
à New York.
Peut-être. Dans un centre d'achat sur le trottoir ou dans un local ayant pignon sur rue, les kiosques de magazines et de journaux attiraient les habitués. Des curieux de tous les âges s'y rendaient, chaque jour pour s'abreuver en nouvelles nationales et internationales, tout en y ramassant un paquet de cigarettes ou un billet de loto. Les plus jeunes étaient le coup et tiraient le cou vers les présentoirs de magazines pour connaître les potins sur leurs artistes préférés. Éco-vedettes, photo-vedettes, etc., tout ce qu'il y avait.
Ça existe toujours, éco-vedettes.
Oui, oui, oui. Pendant que les parents faisaient subtilement de même, mais en feignant de ne pas s'y intéresser. Mm-hmm. Alors, toute la diplomatie.
Plaisir hein, coupable.
Madame Untel m'a dit que, mais moi, je ne l'ai pas vu. Bon. C'était l'âge d'or des médias imprimés. Et personne n'aurait cru qu'une invention appelée Internet allait un jour bousculer cet écosystème en santé. Maudit Internet.
Le camelot, du bon et du moins bon.
Oui. Le camelot pouvait vous lancer sur votre portique chaque matin ou vous pouviez vous le procurer sur votre chemin vers le bureau, votre journal. Ah, le journal, c'est indispensable pour être fait au fait de l'actualité, a longtemps occupé une place de choix dans nos vies. Il aurait été difficile de s'en passer, comme il était ardu de vivre sans beurre et sans pain.
J'ai des journaux ici, en papier,
oui,
le Journal
oui,
de Montréal
encore,
et
oui.
Le Devoir.
Mm-hmm.
Et j'y tiens.
Oui. La routine matinale n'était pas la même sans la lecture de ces pages qui nous noircissaient les doigts. Avez-vous les doigts noircis, là?
Non.
Ah, c'est la presse. Moi, la presse, je me rappelle.
Oui, c'était plus...
Ça s'est peut-être amélioré.
Attaché.
Là, oui. Les dernières années ont malheureusement vu disparaître un à un les quotidiens format papier qui ont migré vers le numérique et les kiosques de journaux se sont dégarnis. Puis plusieurs ont mis la clé sous la porte. D'autres ont modifié leur offre de produits et par le fait même leur vocation. Et les journaux ont cédé la place aux friandises, aux accessoires pour téléphone cellulaire et aux repas prêts à manger. Et s'il est toujours possible d'y trouver son magazine spécialisé favori, un cahier de mots croisés et son tabac, le paysage des kiosques a radicalement changé. Et bien que la nouvelle technologie nous facilite la vie, elle nous coupe de certains liens sociaux qui agrémentaient nos journées.
Oui, ça, c'est l'aspect plus négatif.
Ouais, sans être contre le progrès, on peut bien nourrir un peu de nostalgie à l'égard de cette époque où le papier était roi.
Merci Serge. Mm-hmm. Vous allez poursuivre dans la même veine la semaine prochaine?
Oui, la semaine prochaine, oui.
Et j'annonce aussi officiellement que l'ami Daniel Lachance y sera. Et puis Isabelle, vous allez sauter une semaine, là, vous êtes occupée.
Ben oui, mais ce n'est que partie remise.
D'accord. Merci pour tout. À bientôt.
Au